Bonjour Mélissa Dacosta.
Bonjour.
Les Fauves, c'est le titre de votre nouveau roman qui sort cette semaine. Il se passe dans un cirque dans les années 80, en compagnie de dresseurs de fauves. Vous avez vous-même, je crois, un chat et deux enfants. Ça peut être apparenté à des fauves parfois, mais oui. En plus gentil. Qu'est-ce qui vous attire chez les Fauves ?
Je ne sais pas si c'est typiquement l'univers des fauves qui m'a attirée ou si j'avais depuis très longtemps envie de parler de la violence. Et de la violence qui existe dans notre société, qui peut être dans l'éducation, et interroger tous ces mécanismes qui font que quand on a grandi dans un terreau hostile et violent, on a beau vouloir s'en sortir, on finit très souvent par reproduire ce schéma destructeur. Et il se trouve que ma belle-mère avait offert à mes enfants un petit livre à destination des enfants pour expliquer le cirque. On y voyait la vie en roulotte. Et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas l'endroit où je veux écrire ce roman sur la violence ?
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre cerveau qui s'est aligné à ce moment-là ?
Il y a deux fils qui sont reconnectés. Et il y avait cette page sur le dressage des fauves. Et je me suis aussitôt dit, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à affronter des bêtes aussi sanguinaires, aussi sauvages, à se mettre en danger, hormis un besoin de domination, de se prouver quelque chose ? Et pourquoi on a ce besoin de domination ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous, de nos failles, de notre enfance ? Et voilà, les fils se sont reconnectés et le début du roman est né comme ça.
Alors, vous avez traité de sujets extrêmement différents, parfois difficiles. Il y a eu notamment le handicap, la maladie d'Alzheimer. Vous nous avez emmenés dans des endroits différents aussi, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Là, on est donc au cœur d'un cirque de la communauté de Tzigane. Est-ce que ça révèle quand même chez vous une immense curiosité et un plaisir de vous documenter ?
Oui, complètement, complètement. Je pense que le point commun de tous mes romans, c'est que j'ouvre la porte d'univers clos ou en tout cas difficilement accessible et un peu mystérieux. Il y avait parmi mes tout premiers romans, Je revenais des autres et Les douleurs fantômes, cet univers des saisonniers, ces gens qui changent de maison et de vie tous les 6 mois et qui vivent sur un autre tempo. Voilà, dans des univers qui restent mystérieux, il y a eu ce camping sauvage entouré de vide en Nouvelle-Zélande.
Et là, et même le road trip,
le road trip complètement. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'exploration d'univers un peu caché, secret et une grande curiosité parce que j'adore moi cette partie de recherche et de documentation dans l'écriture.
Alors derrière ces fauves, on le disait, il y a ce personnage de Tony qui fuit sa famille, se retrouve donc dans ce cirque fasciné par les fauves et donc vous interrogez la violence et sa reproduction, ce qui peut donner un livre assez noir et vous n'avez pas peur de côtoyer la noirceur ?
Non, j'ai pas peur, j'ai même une certaine fascination pour cette noirceur et pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut plonger dans cette noirceur.
Voilà. C'est pas un livre forcément de... On va pas chercher forcément chez vous les happy ends. Et pourtant, c'est des livres qui attirent. C'est quoi ce paradoxe ?
Bonne question. Bonne question. J'essaye toujours d'être dans l'ultra-réalisme et la lucidité. Et la lucidité, elle est pas toujours très joyeuse. Et c'est le cas de ce roman. On est dans une lucidité assez brutale. Mais je pense que le lecteur sait que la réalité est là aussi.
Il s'y retrouve sans doute. Vous parlez aussi beaucoup de la place des femmes. Alors souvent, mais là encore, au sein de la communauté Tzigane, mais pas seulement. Quelle que soit l'époque, le pays, c'est pas facile d'être une femme. Et ça
non.
Aussi, vous le montrez de livre en livre. Hein.
Ben là, j'ai pris les... On est dans l'univers d'un petit cirque familial, donc les années 80, donc avec une mentalité très arriérée, une communauté Tzigane avec des rituels et tout un système de croyances qui n'est pas facile pour les femmes, mais pour les hommes non plus, parce que ils doivent coller à cette image d'ultra-performance, d'absence d'émotion, où la fragilité est interdite. Mais en explorant cet univers très fermé, je ne donne qu'un reflet de ce qu'est notre société, puisque ça vient faire écho à tout ce système de violence et de domination qu'on retrouve à toutes les échelles de notre société aussi.
Il y a toujours une empathie pour tous vos personnages. Il n'y en a aucun, j'ai l'impression, que vous condamnez complètement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, quand on finit par comprendre ce qui se cache derrière ces reproductions de schémas, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est aussi de prendre dans nos bras ces petits garçons blessés qui ne savent pas comment exister autrement que dans la domination.
Alors, votre précédent livre est sorti à la fin de l'été 2024. Un an et demi s'est écoulé depuis. Vous êtes jeune maman, vous vous déplacez beaucoup pour rencontrer les lecteurs. Il y a donc un immense travail, mais il y a aussi quoi ? Peut-être une facilité quand même assez déconcertante. Est-ce que vous êtes graphomane au final ? Ça paraît très court, les délais.
Les délais paraissent courts, mais non, j'ai pas de pouvoir magique particulier. J'ai mis quand même 9 mois à écrire ce roman avec une grosse phase de documentation. Je pense que j'ai une Je suis une bosseuse, j'aime travailler et ça ne me fait pas peur de passer 6, 7, 8 heures à écrire dans une journée en m'y remettant peut-être le soir quand les enfants sont couchés. Et il y a aussi
alors
beaucoup...
ça, c'est un pouvoir magique, par exemple.
Non, puis il y a beaucoup de plaisir à écrire. Donc, en fait, quand on est dans la passion, on compte pas ses heures, je pense aussi.
Mélissa Dacosta, nos auditeurs sont sur la route en ce moment, peut-être pour certains d'entre eux en famille. Est-ce que c'est des moments que vous aimez, ça, vous, prendre la route avec votre famille?
Alors, la route, j'aimais beaucoup. Ah. Avant d'avoir des enfants, c'est plus compliqué avec deux enfants qui s'ennuient.
Vous n'avez pas de super pouvoir magique, justement, pour les
non,
occuper.
Pas d'accord. Tellement. Ah, les livres audio. Ah. Petit conseil pour les parents. Laissez tourner des livres audio pour enfants dans la voiture et c'est assez magique.
Vous avez des souvenirs enfants, peut-être, la banquette arrière, les voyages?
J'ai des souvenirs. Ah là là, oui, j'ai des souvenirs avec mes sœurs. On s'ennuyait terriblement sur les longs trajets et on finissait toujours par se chamailler.
Donc, ce n'est pas des bons souvenirs, si?
Si, pour nous, mais pas pour nos parents, voilà. Je pense.
Je crois que vous avez fait un immense road trip en Nouvelle-Zélande, durant lequel d'ailleurs a été écrit tout ou partie de Tout le bleu du ciel,
c'est ça, oui, voilà. La fin de Tout le bleu du ciel.
Vous avez donc vécu la van life, oui, avant que ça devienne ultra à la mode.
C'est vrai.
Ça a été un moment fondateur pour vous, ce road trip?
Oui, je pense, oui. Et puis ça m'a permis de déconstruire aussi ce côté... très utopiste et ludique. Enfin, on a une image très bohème chic de la van life et en fait se confronter à la réalité des choses, ça permet un peu de déconstruire le mythe et de se dire que c'est très bien sur une courte période. Mais pour des gens qui seraient forcés de vivre ce mode de vie au quotidien, c'est aussi très très dur.
Et
c'est terrible. Le froid surtout. En fait, l'absence d'électricité à la limite, ça allait. Ne plus rien voir à partir de 7-8 heures du soir. On s'y fait, on se débrouille, on fait la vaisselle dans le noir, on joue aux cartes dans le noir. Bon, on se débrouille, on se couche très tôt. Mais le froid, en fait, c'est une réalité à laquelle on n'est plus du tout habitué.
Donc, il faut faire quoi? Il faut super bien préparer un tel voyage.
Avoir un très très bon duvet, je pense. Mais c'est chouette aussi. C'est la liberté totale, la van life. C'est plus de rythme, s'arrêter quand on le souhaite, à l'endroit qu'on le souhaite, admirer le plus beau des couchers de soleil à l'endroit où on a décidé de l'admirer. C'est magique aussi.
Dans Fauve, on est au cœur d'un cirque et donc d'une vie itinérante. Ça vous intéressait d'explorer aussi ça, le fait de déballer, de remballer, de construire, déconstruire sans cesse?
Oui, ce côté très difficile, très éreintant. Parce que voilà, on a cette vision, nous qui vivons bien au chaud dans nos maisons, de c'est fantastique, c'est la liberté, c'est le voyage, etc. Mais c'est éreintant, construire, déconstruire, recommencer. Et cette vie de communauté me plaisait beaucoup. Cette idée que sa maison tient dans un très petit espace et sa richesse finalement n'est pas matérielle, mais la richesse de ces gens, de ces communautés, c'est cette immense solidarité. Et cette vie en communauté.
Mélissa Dacosta vous a reçue pour la toute première fois au moment de la sortie de Tout le bleu du ciel. Je m'en souviens très bien. Vous étiez donc une toute jeune autrice, assez timide, très observatrice par ailleurs. Depuis, vous êtes devenue la personne la plus lue en France. Est-ce que vous avez l'impression d'un changement de vie total depuis ce moment-là, ou c'est une lignée pour vous? Comment vous l'avez vécu tout ça?
Alors, j'ai pas l'impression d'une rupture, d'un changement de vie en termes de rupture, d'un avant ou d'un après, mais d'une ascension, mais qui reste dans une lignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture. J'ai conservé beaucoup de choses. déjà, tout mon entourage est resté absolument à l'identique, même si j'ai fait de nouvelles rencontres amicales. Et j'ai gardé beaucoup de choses. Non, j'ai l'impression
d'un
cheminement très positif, mais aussi très, très stable dans le fond.
Je crois que le prochain roman est déjà sur les rails. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous avez publié une photo où vous étiez plongée dans cette phase de recherche.
Oui.
Donc, il n'y a jamais d'arrêt, quoi. Pas de temps mort.
Ah, il y a des temps morts. Il y a quelques mois. Il y a toujours quelques mois d'errance, entre guillemets, entre deux romans. C'est-à-dire que je suis vide. Je n'ai plus d'idées. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus... Oui, cette énergie d'écriture et d'inspiration. Mais ça fait partie du quotidien d'auteur. Voilà, il y a toujours, on va dire, 4-5 mois, parfois plus, d'errance où on démarre des choses, qu'on abandonne. On recommence, on abandonne, on construit, on déconstruit, jusqu'au moment où on trouvera le prochain roman.
Il y a l'alignement de planètes de nouveau qui fait
c'est
que vous trouvez l'idée.
Les deux fils qui se reconnectent.
Mélissa Dacosta, vous signez Fauve chez Albin Michel. Il sort cette semaine et vous ne pourrez pas le rater en librairie avec une couverture toute noire et cet œil de fauve qui vous toise et vous appelle. Et on peut déjà prédire que ce sera un des grands succès de cette rentrée d'hiver. Merci beaucoup.
Merci à vous.